Chapitre 7. En ce moment, le comte de la Bastille était accablé de toutes les douleurs qu'il attendait comme une proie. Il avait appris, par la lettre de sa fille, la mort de Bettina Caroline, la cécité de sa femme, et dut même de lui raconter le terrible imbroglio des amours de Modeste. « Laisse-moi seul, » dit-il à son fidèle ami. Quand le lieutenant eut fermé la porte, le malheureux père se jeta sur un divan, y resta la tête dans ses mains, pleurant de ses larmes rares, maigres, qui roulent entre les paupières des gens de 56 ans, sans en sortir, qui les mouillent, qui se sèchent promptement, et qui renaissent, une de ces dernières rosées de l'automne humain. Avoir des enfants chéris, avoir une femme adorée, c'est se donner plusieurs mœurs et les tendre au poignard, s'écria-t-il en faisant un bond de tigre et se promenant dans la chambre. Être père, mais c'est se livrer pieds et poings liés au malheur. Oh, si je rencontre ce destourni, je tuerai. Ayez donc des filles. L'une met la main sur un escroc et l'autre, ma modeste, sur quoi? Sur un lâche qui l'abuse sous l'armure en papier doré d'un poète. Encore, si c'était qu'Analys, il n'y aurait pas grand mal, mais ce scapin d'amoureux, je l'étranglerai de mes deux mains, se disait-il en faisant involontairement un geste d'une atroce énergie. Oui, après, se demanda-t-il, si ma fille meurt de chagrin. Il regarda machinalement par les fenêtres de l'hôtel des Princes, et vint se rasseoir sur son divan où il resta immobile. Les fatigues de 6 voyages aux Indes, les soucis de la spéculation, les dangers courus évités, les chagrins avaient argenté la chevelure de Charles Mignon. Sa belle figure militaire, d'un contour si pur, s'était bronzée au soleil de la Malaisie, de la Chine et de l'Asie mineure, et elle avait pris un caractère imposant, que la douleur rendit sublime en ce moment. Et mon Jolot, qui me dit d'avoir confiance dans le jeune homme qui va venir me parler de ma fille. Ernest de la Brière fit alors annoncer par l'un des domestiques que le comte de la Bastille s'était attaché pendant ces 4 années et qu'il avait tiré dans le nombre de ses subordonnés. Vous venez, monsieur, de la part de mon ami Mongenod, dit-il. « Oui, répondit Ernest, qui contempla timidement ce visage aussi sombre que celui d'Othello. Je me nomme Ernest de la Brière, allié, monsieur, à la famille du dernier Premier ministre et son secrétaire particulier pendant son ministère. À sa chute, son Excellence me mit à la Cour des comptes, où je suis référendaire de première classe et où je puis devenir maître des comptes. « Et en quoi tout ceci peut-il concerner Mademoiselle de la Bastille ?» demanda Charles Mignon. « Monsieur, je l'aime, et j'ai l'inespéré bonheur d'être aimé d'elle. »« Écoutez-moi, monsieur, » dit Ernest en arrêtant un mouvement terrible du père irrité, « j'ai la plus bizarre confession à vous faire, la plus honteuse pour un homme d'honneur. » La plus affreuse punition de ma conduite, naturelle peut-être, n'est pas d'avoir à vous la révéler. Je crains encore plus la fille que le père. » Et Ernest raconta naïvement, et avec la noblesse que donne la sincérité, l'avant-scène de ce petit drame domestique, sans omettre les 20 et quelques lettres échangées qu'il avait apportées, ni l'entrevue qu'il venait d'avoir avec Canalis. Quand le père eut fini la lecture de ses lettres, le pauvre amant, pâle et suppliant, trembla sous les regards de feu que lui jeta le Provençal. « Monsieur, dit Charles, il se trouve en tout ceci qu'une erreur, mais elle est capitale. Ma fille n'a pas 6 millions, elle a tout au plus 200 000 francs de dot et des espérances très douteuses. « Ah, monsieur, dit Ernest en se levant, se jetant sur Charles Mignon et le serrant. « Oh, vous m'ôtez un poids qui m'oppressait. Rien ne s'opposera peut-être plus à mon bonheur. J'ai des protecteurs, je serai maître des comptes. Dit-elle que 10 000 francs? Fallait-il lui reconnaître une dot? Mademoiselle Modeste serait encore ma femme. Et la rendre heureuse, comme vous avez rendu la vôtre, être pour vous un vrai fils. Oui, monsieur, je n'ai plus mon père. Voilà le fond de mon cœur. Charles Mignon recula de 3 pas, arrêta sur la bruyère un regard qui pénétra dans les yeux du jeune homme comme un poignard dans sa gaine, et il resta silencieux, en trouvant la plus entière candeur, la vérité la plus pure, sur cette physionomie épanouie dans ses yeux enchantés. Le sort se laissera, se lasserait-il donc, se dit-il à demi-voix, et trouverai-je dans ce garçon la perle des gendres? Il se promena, très agité, par la chambre. « Vous devez, monsieur, dit enfin Charles Mignon, la plus entière soumission à l'arrêt que vous êtes venu chercher, car sans cela vous joueriez en ce moment la comédie. Oh, monsieur !» Écoutez-moi, dit le père en clouant sur place la bruyère par un regard. Je ne serai ni sévère, ni dur, ni injuste. Vous subirez et les inconvénients, les avantages de la position fausse dans laquelle vous vous êtes mis. Ma fille croit aimer un des grands poètes de son temps, et dont la gloire, avant tout, l'a séduite. Eh bien, moi, son père, ne dois-je pas la mettre à même de choisir entre la célébrité qui fut comme un phare pour elle et la pauvre réalité que le hasard lui jette par une de ces railleries qu'il se permet si souvent? Ne faut-il pas qu'elle puisse opter entre Canalis et vous? Je compte sur votre honneur pour vous taire sur ce que je viens de vous dire relativement à l'état de mes affaires. Vous viendrez, vous et votre ami, le baron de Canalis, au Havre, passer cette dernière quinzaine du mois d'octobre. La maison vous sera ouverte à tous deux. Ma fille aura le loisir de vous observer. Songez que vous devez amener vous-même votre rival et lui laisser croire tout ce qu'on dira de fabuleux sur les millions du comte de la Bastille. Je serai demain au Havre et vous y attends 3 jours après mon arrivée. Adieu, monsieur. Le pauvre Labrière retourna d'un pied très lent chez Canalis. En ce moment, seul avec lui-même, le poète pouvait s'abandonner au torrent de pensées que fait jaillir ce second mouvement si vanté par le prince de Talleyrand. Le premier mouvement est la voix de la nature et le second est celle de la société. Une riche fille de 6 millions, et mes yeux n'ont pas vu briller cet or à travers les ténèbres. Mais avec une fortune si considérable, je serais pair de France, comte, ambassadeur. J'ai répondu à des bourgeoises, à des sottes, à des intrigantes qui voulaient un autographe. Et je me suis lassé de ces intrigues de bal masqué, précisément le jour où Dieu m'envoyait une âme d'élite, un ange aux ailes d'or. Bon, je vais faire un poème sublime, et ce hasard renaîtra. Mais est-il heureux, ce petit niais de la Bruyère, qui s'est pavané dans mes rayons? Quel plagiat! Je suis le modèle, il sera la statue. Nous avons joué la fable de Bertrand et Raton. 6 millions et un ange, un mignon de la Bastille, un ange aristocratique aimant la poésie et le poète. Et moi qui montre mes muscles d'homme fort, qui fais des exercices d'Alcide pour étonner par la force morale ce champion de la force physique, ce brave soldat plein de cœur, l'ami de cette jeune fille à laquelle il dira que je suis une âme de bronze. Je joue au Napoléon quand je devrais me dessiner en séraphin. Enfin, j'aurai peut-être un jour un ami, je l'aurais payé cher. Mais l'amitié, c'est si beau. 6 millions, voilà le prix d'un ami. On ne peut pas en avoir beaucoup à ce prix-là. La Bruyère entra dans le cabinet de son ami sur ce dernier point d'exclamation. Il était triste. « Eh bien, qu'as-tu ? » lui dit Canalis. « Bien, le père exige que sa fille soit mise à même de choisir entre les deux Canalis. »« Pauvre garçon, s'écria le poète en riant, il est très spirituel ce père-là. Et je suis engagé d'honneur à l'amener au Havre, dit piteusement la Bruyère. Mon cher enfant, répondit Canalis, du moment où il s'agit de ton honneur, tu peux compter sur moi. Je vais aller demander un congé d'un mois. Oh, modeste et bien belle, s'écria la Bruyère au désespoir, et tu m'écraseras facilement. Enfin, j'étais aussi bien étonné de voir le bonheur s'occupant de moi, et je me disais, puis se trompe. Bon, nous verrons, dit Canalis avec une atroce gaieté. Le soir, après dîner, Charles Mignon et son caissier volaient à raison de 3 francs de guide de Paris au Havre. Le père avait complètement rassuré le chien de garde sur les amours de Modeste en le relevant de sa consigne et le rassurant sur le comte de Boutchat. Tout est pour le mieux, mon vieux Dumay, dit Charles, qui avait pris des renseignements auprès de Mongeron et sur Canalis et sur la Bruyère. Nous allons avoir 2 personnages pour un rôle, s'écria-t-il gaiement. Il recommanda néanmoins à son vieux camarade une discrétion absolue sur la comédie qui devait se jouer au chalet, la plus douce des vengeances, ou si vous le voulez, des leçons d'un père à sa fille. De Paris au Havre, se fit entre les 2 amis une longue causerie qui mit le colonel au fait des plus légers incidents arrivés à sa famille pendant ces 4 années, et Charles apprit à Dumay que Desplein, le grand chirurgien, devait, avant la fin du mois, venir examiner le cataracte de la comtesse afin de dire s'il était possible de lui rendre la vue. Un moment avant l'heure à laquelle on déjeunait au chalet, les claquements de fouet d'un postillon comptant sur un large pourboire apprirent le retour des 2 soldats à leur famille. La joie d'un père revenant après une si longue absence pouvait seule avoir de tels éclats. Aussi les femmes se trouvèrent-elles toutes à la petite porte. Il y a tant de pères, tant d'enfants, et peut-être plus de pères que d'enfants, pour comprendre l'ivresse d'une pareille fête que la littérature n'a jamais eu besoin de la peindre, heureusement, car les plus belles paroles, la poésie est au-dessous de ces émotions. Peut-être les émotions douces sont-elles peu littéraires. Pas un mot qui pût troubler les joies de la famille Mignon ne fut prononcé dans cette journée. Il y eut trêve entre le père, la mère et la fille relativement au soi-disant mystérieux amour qui pâlissait Modeste, levée pour la première fois. Le colonel, avec l'admirable délicatesse qui distingue les vrais soldats, se tint pendant tout le temps à côté de sa femme, dont la main ne quitta pas la sienne, et il regardait Modeste sans se lasser d'admirer cette beauté fine, élégante, poétique. N'est-ce pas à ces petites choses que se reconnaissent les gens de cœur ? Modeste, qui craignait de troubler la joie mélancolique de son père et de sa mère, venait de moment en moment embrasser le front du voyageur, et en l'embrassant trop, elle semblait vouloir l'embrasser pour 2. « Oh, chère petite, je te comprends, » dit le colonel en serrant la main de Modeste à un moment où elle l'assaillait de caresses. « Chut !» lui répondit Modeste à l'oreille, en lui montant sa mère. Le silence un peu finaud des Dumay rendit Modeste inquiète sur les résultats du voyage à Paris. Elle regardait parfois le lieutenant, la dérobée, sans pouvoir pénétrer au-delà de ce que dure épiderme. Le colonel voulait, en père prudent, étudier le caractère de sa fille unique et consulter surtout sa femme avant d'avoir une conférence d'où dépendait le bonheur de toute la famille. « Demain, mon enfant chéri, » dit-il le soir, « lève-toi de bonne heure, nous irons ensemble, s'il fait beau, nous promener au bord de la mer. Nous avons à causer de vos poèmes, mademoiselle de la Bastille. » Ce mot, accompagné d'un sourire paternel, qui reparut comme un échec sur les lèvres de Dumay, fut tout ce que Modeste put savoir. Mais ce fut assez, et pour calmer ses inquiétudes et pour la rendre curieuse, à ne s'endormir que tard, tant elle fit de suppositions. Aussi le lendemain était-elle tout habillée et prête avant le colonel. « Vous savez tout, mon bon père, » dit-elle aussitôt qu'elle se trouva sur le chemin de la mer. « Oui, je sais tout, et encore bien des choses que tu ne sais pas, » répondit-il. Sur ce mot, le père et la fille firent quelques pas en silence. « Explique-moi, mon enfant, comment une fille adorée par sa mère a su faire une démarche aussi capitale que celle d'écrire un inconnu sans la consulter ?»« Eh, papa, parce que maman ne me l'aurait pas permis. »« Crois-tu, ma fille, que ce soit raisonnable ?»« Si tu t'es fatalement instruite toute seule, comment ta raison ou ton esprit, à défaut de la pudeur, ne t'ont-ils pas dit qu'agir ainsi, c'était te jeter à la tête d'un homme ?» Ma fille, ma seule et unique enfant, serait sans fierté, sans délicatesse. Oh, Modeste, tu as fait passer à ton père 2 heures d'enfer à Paris, car enfin tu as tenu oralement la même conduite que Bettina, sans avoir l'excuse de la séduction. Tu as été coquette à froid, et cette coquetterie-là, c'est l'amour de tête, le vice le plus affreux de la Française. Moi, sans fierté, disait Modeste en pleurant, mais il ne m'a pas encore vue. « Mais il sait ton nom. Je lui ai dit qu'au moment où les yeux ont donné raison à 3 mois de correspondance pendant lesquels nos âmes se sont parlés. Oui, mon cher ange égaré, vous avez mis une espèce de réseau dans une folie qui compromettait et votre bonheur et votre famille. Et après tout, papa, le bonheur et l'absolution de cette témérité, dit-elle avec un mouvement d'humeur. « Ah, c'est de la témérité seulement ?» s'écria le père. « Une témérité que ma mère s'est permise ?» répliqua-t-elle vivement. « Enfant mutiné, non, votre mère, après m'avoir vu pendant un bal, a dit le soir à son père qu'il adorait, qu'elle croyait devoir être heureuse avec moi. Sois franche, Modeste, y a-t-il quelque similitude entre un amour conçu rapidement, il est vrai ?» Mais sous les yeux d'un père et la folle action d'écrire à un inconnu ?»« Un inconnu, mais dites papa, l'un de nos plus grands poètes, dont le caractère et la vie sont exposés au grand jour, à la médisance, à la calomnie, un homme vêtu de gloire, et pour qui, mon cher père, je suis resté à l'état de personnage dramatique et littéraire, une fille de Shakespeare, jusqu'au moment où j'ai voulu savoir si l'homme est aussi bien que son âme est belle. » « Mon Dieu, ma pauvre enfant, mais tu fais de la poésie à propos de mariage. Mais si de tout temps on a cloîtré les filles dans l'intérieur de la famille, si Dieu, si la loi sociale les met sous le joug sévère du consentement paternel, c'est précisément pour leur éviter tous les malheurs de ces poésies qui vous charment, qui vous éblouissent, et qu'alors vous ne pouvez apprécier à leur juste valeur. La poésie est un désagrément de la vie, mais elle n'est pas toute la vie. » « Papa, c'est un procès encore devant le tribunal des faits, car il y a une lutte constante entre nos cœurs et la famille. »«
Malheur à l'enfant qui serait heureuse par cette résistance !» dit gravement le colonel. « En 1813, j'ai vu l'un de mes camarades, le marquis d'Aiglemont, épousant sa cousine contre l'avis du père, et ce ménage a payé cher l'entêtement qu'une jeune fille prenait pour de l'amour. » La famille est en ceci souveraine.
Mon fiancé m'a dit tout cela, répondit-elle. Il s'est fait orgon pendant quelque temps et il a eu le courage de me dénigrer le personnel des poètes.
J'ai lu vos lettres, dit Charles Mignon, en laissant échapper un malicieux sourire qui rendit Modeste inquiète.
Mais à ce propos, je dois te faire observer que ta dernière serait à peine permise à une fille séduite, à une Julie d'Étanges. Mon Dieu, quel mal nous font les romans !»«
On ne les écrirait pas, mon cher père. Nous les ferons, nous les ferions, et il vaut mieux les lire. Il y a moins d'aventures dans ce temps-ci que sous Louis XIV et Louis XV, où l'on publiait moins de romans. D'ailleurs, si vous avez lu les lettres, vous avez dû voir que je vous ai trouvé pour gendre le fils le plus respectueux, l'âme la plus angélique, la probité la plus sévère, et que nous nous aimons au moins autant que vous et ma mère vous vous aimiez. Eh bien, je vous accorde que tout ne s'est pas exactement passé selon l'étiquette. J'ai fait, bon, si vous voulez, une faute.
Oui, j'ai lu vos lettres, répéta le père en interrompant sa fille. Ainsi, je sais comment il t'a justifié, à tes propres yeux, d'une démarche que pourrait se permettre une femme à qui la vie est connue et qu'une passion entraînerait, mais qui, chez une jeune fille de 20 ans, est une faute monstrueuse.
Une faute pour des bourgeois, pour des gobenheim compensés qui mesurent la vie à l'équerre. Nous ne sortons pas du monde artiste et poétique, papa. Nous sommes, nous autres jeunes filles, entre deux systèmes. Laisser voir par des minauderies à un homme que nous l'aimons ou aller franchement à lui. Et ce dernier parti n'est-il pas bien plus grand, bien plus noble? Nous autres jeunes filles françaises, nous sommes livrés par nos familles comme des marchandises à 3 mois, quelquefois fin courant, comme Mademoiselle Vilquin. Mais en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, on se marie à peu près d'après le système que j'ai suivi. Qu'avez-vous à répondre? Ne suis-je pas un peu allemande?
Enfant, s'écria le colonel en regardant sa fille, la supériorité de la France vient de son bon sens, de la logique à laquelle sa belle langue y condamne l'esprit. Elle est la raison du monde. L'Angleterre et l'Allemagne sont romanesques en ce point de leur mœurs, et encore, les grandes familles suivent-elles nos lois?
Vous n'aurez donc jamais pensé que vos parents, à qui la vie est bien connue, ont la charge de vos âmes et de votre bonheur, qui doivent vous faire éviter les écueils du monde?
Mon Dieu, dit-il, est-ce leur faute, est-ce la nôtre? Doit-on tenir ces enfants sous un joug de fer? Devons-nous être punis de cette tendresse qui nous les fait rendre heureux, qui les met malheureusement à même à notre cœur?
Modeste observa son père du coin de l'œil, en entendant cette espèce d'invocation, dite avec des larmes dans la voix.
Mais est-ce une faute à une fille libre de son cœur de se choisir pour mari non seulement un charmant garçon, mais encore un homme de génie, noble et dans une belle position? Un gentilhomme doux comme moi, dit-elle.
Tu l'aimes? Demanda le père.
Tenez, mon père, dit-elle en posant sa tête sur le sein du colonel, si vous ne voulez pas me voir mourir.
Assez, dit le vieux soldat. Ta passion est, je vois, inébranlable.
Oui, inébranlable.
Rien ne peut te faire changer,
non, rien au monde.
Tu ne supposes aucun événement, aucune trahison, reprit le vieux soldat. Tu l'aimes quand même à cause de son charme personnel, et ce serait d'un destourdi, tu l'aimerais encore.
Oh, mon père, vous ne connaissez pas votre fille. Pourrais-je aimer un lâche, un homme sans foi, sans honneur, un gibier de potence?
Et si tu avais été trompé?
Par ce charmant et candide garçon, presque mélancolique. Oh, vous riez, vous ne l'avez pas vu.
Enfin, fort heureusement, ton amour n'est plus absolu, comme tu le disais. Je te fais apercevoir des circonstances qui modifieraient ton poème. Eh bien, comprends-tu que les pères soient bons à quelque chose?
Vous voulez donner une leçon à votre enfant, papa? Mais ceci tourne au berquin.
Pauvre égaré, reprit sévèrement le père, la leçon ne vient pas de moi, je n'y suis pour rien, si ce n'est pour t'adoucir le coup.
Assez, mon père, ne jouez pas avec ma vie, dit Modeste en pâlissant.
Allons, ma fille, rassemble ton courage. C'est toi qui as joué avec la vie, et la vie se joue de toi.
Modeste regarda son père d'un air hébété.
Voyons, si le jeune homme que tu aimes, que tu as vu dans l'église du Havre il y a 4 jours, était un misérable.
Cela n'est pas, dit-elle, cette tête brune et pâle, cette noble figure pleine de poésie.
C'est un mensonge, dit le colonel, en interrompant sa fille.
Ce n'est pas plus monsieur le Canalis que je ne suis ce pêcheur qui lève sa voile pour partir.
Mais savez-vous ce que vous tuez en moi? Dit-elle.
Rassure-toi, mon enfant.
Si le hasard a mis ta punition dans la faute même, le mal n'est pas irréparable. Le garçon que tu as vu, avec qui tu as échangé ton cœur par correspondance, est un loyal garçon. Il est venu me confier son embarras. Il t'aime, et je ne le désavouerai pas pour gendre. Mais si ce n'est pas Canalis, qui est-ce donc ? Dit Modeste d'une voix profondément altérée.
Le secrétaire ! Il se nomme Ernest de la Brière. Il n'est pas gentilhomme, mais c'est un de ces hommes ordinaires, à vertu positive, d'une moralité sûre, qui plaisent aux parents. Qu'est-ce que cela nous fait d'ailleurs ? Tu l'as vu, rien ne peut changer ton cœur. Tu l'as choisi, tu connais son âme, elle est aussi belle qu'il est joli garçon. »
Le comte de la Bastille eut la parole coupée par un soupir de Modeste. La pauvre fille, pâle, les yeux attachés sur la mer, roide comme une morte, fut atteinte comme d'un coup de pistolet par ces mots. C'est un de ces hommes ordinaires, à vertu positive, d'une moralité qui plaise aux parents.
Trompé ? Dit-elle enfin.
Oui, comme ta pauvre sœur, mais moins gravement.
Retournons, mon père, dit-elle en se levant du tertre où tous deux ils s'étaient assis. Tiens, papa, je te jure devant Dieu de suivre ta volonté, quelle qu'elle soit, dans l'affaire de mon mariage.
Alors tu n'aimes donc déjà plus ? Demanda railleusement le père.
Mais j'aimais un homme vrai, sans mensonge au front, probe comme tout, l'être, incapable de se déguiser comme un acteur, de se mettre à la joue le fard de la gloire d'un autre.
Mais tu disais que rien ne pouvait te faire changer, dit ironiquement le colonel.
Oh, ne vous jouez pas de moi, dit-elle en joignant les mains et regardant son père dans une anxiété cruelle. Vous ne savez pas que vous maniez mon cœur et mes plus chères croyances avec vos plaisanteries.
Mais Dieu m'en garde, je t'ai dit l'exacte vérité.
Vous êtes bien bon, mon père, répondit-elle après une pause et avec une sorte de solennité.
Et il a tes lettres, reprit Charles Mignon. Si ces folles caresses de ton âme étaient tombées entre les mains de ces poètes qui, selon Dumay, en font des allumettes à cigares.
Vous allez trop loin.
Mais Canalis le lui a dit.
Il a vu Canalis ?
Oui, répondit le colonel. Ils marchèrent tous les deux en silence.
Ah, voilà donc pourquoi, reprit Modeste après quelques pas, ce monsieur me disait tant de mal de la poésie et des poètes. Pourquoi ce petit secrétaire parlait de... Mais, dit-elle en interrompant, ses vertus, ses qualités, ses beaux sentiments, ne sont-ils pas un costume épistolaire ? Oh, celui qui vole une gloire et un nom peut bien...
Oui, crocheter les serrures, voler le trésor, assassiner sur le grand chemin, s'écria Charles Mignon en souriant.
Oh, vous voilà bien, vous autres jeunes filles, avec vos sentiments absolus et votre ignorance de la vie. Un homme capable de tromper une femme descend nécessairement de l'échafaud, ou doit y monter.
Cette raillerie arrêta l'effervescent de Modeste, et de nouveau le silence régna.
Mon enfant, reprit le colonel, les hommes, dans la société comme dans la nature d'ailleurs, doivent chercher à s'emparer de vos cœurs, et vous devez vous défendre. Tu as interverti les rôles, est-ce bien ? Tout est faux dans une fausse position. À toi donc le premier tort. Non, un homme n'est pas un monstre quand il essaie de plaire à une femme, et notre droit à nous nous permet l'agression, toutes ses conséquences, hors le crime et la lâcheté. Un homme peut avoir encore des vertus après avoir trompé une femme, ce qui veut tout bonnement dire qu'il ne reconnaît pas en elle les trésors qu'il y cherchait. Tandis qu'il n'y a qu'une reine, une actrice ou une femme placée tellement au-dessus d'un homme qu'elle soit pour lui comme une reine, qui puisse aller au-devant de lui, sans trop de blâme. Mais une jeune fille, elle ment alors à tout ce que Dieu a fait fleurir de saint, de beau, de grand en elle, quelque grâce, quelque poésie, quelque précaution qu'elle mette à cette faute.
Rechercher le maître et trouver le domestique, avoir rejoué les deux jeux de la bourre et du hasard, de mon côté seulement, dit-elle avec amertume, oh, je ne m'en relèverai jamais.
Mais folie, monsieur Ernest de la Bruyère est à mes yeux un personnage au moins égal à monsieur le baron de Canalis. Il a été le secrétaire particulier d'un premier ministre. Il est conseiller référendaire à la Cour des comptes. Il a du cœur, il s'adore. Mais il ne compose pas de vers, non, j'en conviens. Il n'est pas poète. Mais il peut avoir le cœur plein de poésie. Enfin, ma pauvre enfant, dit-il à un geste de dégoût que fit Modeste, tu les verras l'un et l'autre, le faux et le vrai Canalis. Oh, papa! Ne m'as-tu pas juré de m'obéir en tout dans l'affaire de ton mariage? Eh bien, tu pourras choisir entre eux celui qui te plaira pour mari. Tu vas commencer par un poème, tu finiras par une idylle bucolique en essayant de surprendre le vrai caractère de ces messieurs dans quelques aventures champêtres, la chasse ou la pêche.
Modeste baissa la tête, elle revint au chalet avec son père en l'écoutant, en répondant par des monosyllabes. Elle était tombée au fond de la boue et humiliée de cette alpe où elle avait cru voler jusqu'au nid d'un aigle. Pour employer les poétiques expressions d'un auteur de ce temps, après s'être senti la plante des pieds trop tendre pour cheminer sur les tessons de verre de la réalité, la fantaisie qui, dans cette frêle poitrine, réunissait tout de la femme, depuis les rêveries semées de violettes de la jeune fille pudique jusqu'aux désirs insensés de la courtisane, l'avait amenée au milieu de ces jardins enchantés, où, surprise amère, elle voyait, au lieu de sa fleur sublime, sortir de terre les jambes velues et entortillées de la noire mandragore. Des hauteurs mystiques de son amour, Modeste se trouvait dans le chemin uni, plat, bordé de fossés de labour, sur la route pavée de la vulgarité. Quelle fille à la mardante se serait brisée dans une chute pareille? Au pied de qui donc avait-elle semé ses perles? La Modeste, qui revint au chalet, ne ressemblait plus à celle qui sortit 2 heures auparavant, que l'actrice dans la rue ne ressemble à l'héroïne en scène. Elle tomba dans un engourdissement pénible à voir. Le soleil était obscur, la nature se voilait, les fleurs ne lui disaient plus rien. Comme toutes les filles à caractère extrême, elle but quelques gorgées de trop à la coupe du désenchantement. Elle se débattit avec la réalité, sans vouloir tendre encore le cou aux joues de la famille et de la société. Elle le trouvait lourd, dur, pesant. Elle n'écouta même pas les consolations de son père et de sa mère. Elle goûta, je ne sais quelle sauvage volupté, à se laisser aller à ses souffrances d'âme.
« Le pauvre Butcha, dit-elle un soir, a donc raison. » Ce mot indique le chemin qu'elle fit en peu de temps dans les plaines arides du réel, conduite par une morne tristesse. La tristesse, engendrée par le renversement de toutes nos espérances, est une maladie. Elle donne souvent la mort. Ce ne sera pas une des moindres occupations de la physiologie actuelle que de rechercher par quelle voie, par quel moyen, une pensée arrive à produire la même désorganisation qu'un poison. Comment le désespoir ôte l'appétit, détruit le pylore et change toutes les conditions de la plus forte vie. Et telle fut Modeste. En 3 jours, elle offrit le spectacle d'une mélancolie morbide. Elle ne chantait plus. On ne pouvait plus la faire sourire. Elle effraya ses parents et ses amis. Charles Mignon, inquiet de ne pas voir arriver les 2 amis, pensait à les aller chercher. Mais le 4e jour, M. Latournelle en eut des nouvelles. Voici comment. Canalis, excessivement alléché par un si riche mariage, n'y voulut rien négliger pour l'emporter sur la Bruyère, sans que la Bruyère pût lui reprocher d'avoir violé les lois de l'amitié. Le poète pensa que rien ne déconsidérait plus un amant aux yeux d'une jeune fille que de le lui montrer dans une situation subalterne. Et il proposa, de la manière la plus simple à la Bruyère, de faire ménage ensemble et de prendre pour un mois un Gouville, une petite maison de campagne où ils se logeraient tous les deux sous prétexte de santé délabrée. Une fois que la Bruyère, qui dans le premier moment n'a pu sur rien que de naturel à cette proposition, y eut consenti, Canalis se chargea de mener son ami gratuitement et fit à lui seul les préparatifs du voyage. Il envoya son valet de chambre au Havre et lui recommanda de s'adresser à M. Latournelle pour la location d'une maison de campagne à Ingouville, en pensant que le notaire serait bavard avec la famille Mignon. Ernest et Canalis avaient chacun le présume causé de toutes les circonstances de cette aventure, et le prolixe Labruyère avait donné 1000 renseignements à son rival. Le valet de chambre, au fait des intentions de son maître, les remplit à merveille. Il trompeta l'arrivée au Havre du grand poète à qui les médecins ordonnaient quelques bains de mer pour réparer ses forces épuisées dans les doubles travaux de la politique et de la littérature. Ce grand personnage voulait une maison composée d'au moins tant de pièces, car il amenait son secrétaire, un cuisinier, deux domestiques et un cocher, sans compter M. Germain Bonnet, son valet de chambre. La calèche, choisie par le poète et louée pour un mois, était assez jolie, elle pouvait servir à quelques promenades. Aussi Germain chercha-t-il à louer, dans les environs du Havre, deux chevaux à deux fins, M. le baron et son secrétaire aimant l'exercice du cheval. Devant le petit Latournelle, Germain, en visitant les maisons de campagne, appuyait beaucoup sur le secrétaire et il refusa deux, en objectant que M. Labruyère n'y serait pas convenablement logé. « Monsieur le baron, disait-il, a fait de son secrétaire son meilleur ami. Oh, je serais joliment grondé si M. de Labruyère n'était pas traité comme M. le baron lui-même. Et après tout, M. de Labruyère est référendaire à la Cour des comptes. » Germain ne se pondra jamais que vêtu tout en drap noir, des gants propres aux mains, des bottes, et costumé comme un maître. Jugez quel effet il produisit et quelle idée on prit du grand poète sur cet échantillon. Le valet d'un homme d'esprit finit par avoir de l'esprit, car l'esprit de son maître finit par déteindre sur lui. Germain ne chargea pas son rôle, il fut simple, il fut bonhomme, selon la recommandation de Canalis. Le pauvre Labruyère ne se doutait pas du tort que lui faisait Germain et de la dépréciation à laquelle il avait consenti. Car, des sphères inférieures, il remonta vers Modeste quelques éclats de la rumeur publique. Ainsi, Canalis allait mener son ami à sa suite, dans sa voiture, et le caractère d'Ernest ne lui permettait pas de reconnaître la fausseté de sa position à ses attentes pour y remédier. Le retard contre lequel pestait Charles Mignon provenait de la peinture des armes de Canalis sur les panneaux de la calèche et des commandes au tailleur, car le poète embrassa le monde immense de ses détails dont le moindre influence une jeune fille. « Oh, soyez tranquille, dit Latournelle à Charles Mignon le cinquième jour. Le valet de chambre de M. Canalis a terminé ce matin. » Il a loué le pavillon de Madame Armory à Sanvic, tout meublé pour 700 francs, et il a écrit à son maître qu'il pouvait partir. Il trouvera tout prêt à son arrivée. Ainsi, ces messieurs seront ici dimanche. Oh, j'ai même reçu la lettre que voici de Butchat. Oh, tenez, elle n'est pas longue. Mon cher patron, je puis être de retour avant dimanche. J'ai d'ici là quelques renseignements extrêmement importants à prendre et qui concernent le bonheur d'une personne à qui vous vous intéressez. » L'annonce de l'arrivée de ces deux personnages ne rendit pas Modeste moins triste. Le sentiment de sa chute, sa confusion la dominait encore, et elle n'était pas si coquette que son père le croyait. Il est une charmante coquetterie permise, celle de l'âme, et qui peut s'appeler la politesse de l'amour. Or, Charles Mignon, en grondant sa fille, n'avait pas distingué entre le désir de plaire et l'amour de tête entre la soif d'aimer et le calcul. En vrai colonel de l'Empire, il avait vu dans cette correspondance, rapidement lue, une fille qui se jetait à la tête d'un poète. Mais dans les lettres supprimées, pour éviter les longueurs, un connaisseur eût admiré la réserve pudique et gracieuse que Modeste avait promptement substituée au ton agressif et léger de ses premières lettres par une transition assez naturelle à la femme. Le père avait eu cruellement raison sur un point. La dernière lettre où Modeste, saisie par un triple amour, avait parlé comme si déjà le mariage était conclu, cette lettre causait sa honte. Aussi trouvait-elle son père bien dur, bien cruel, de la forcer à recevoir un homme indigne d'elle, vers qui son âme avait volé presque à nu. Elle avait questionné Dumay sur son entrevue avec le poète, elle lui en avait finement fait raconter les moindres détails, et elle ne trouvait pas qu'Analys si barbare que le disait le lieutenant. Elle souriait à cette belle cassette palpable qui contenait les lettres des 1003 femmes de ce donjon littéraire. Elle fut plusieurs fois tentée de dire à son père « Je ne suis pas la seule à lui écrire, et l'élite des femmes envoie des feuilles à la couronne de laurier du poète. » Le caractère de Modeste subit pendant cette semaine une transformation. Cette catastrophe, et c'en fut une grande chez une nature si poétique, éveilla la perspicacité, la malice, l'attente chez cette jeune fille en qui s'est prétendu aller rencontrer un terrible adversaire. En effet, quand chez une jeune personne le cœur se refroidit, la tête devient saine, elle observe alors, tout avec une certaine rapidité de jugement, avec un ton de plaisanterie que Shakespeare a très admirablement peint dans son personnage de Béatrix, de beaucoup de bruit pour rien. Modeste fut saisie d'un profond dégoût pour les hommes dont les plus distingués trompaient ses espérances. En amour, ce que la femme prend pour le dégoût, c'est tout simplement voir juste. Mais en fait de sentiments, elle n'est jamais, surtout la jeune fille, dans le vrai. Si elle n'admire pas, elle méprise. Or, après avoir subi les douleurs d'âme inouïe, Modeste arriva nécessairement à revêtir cette armure sur laquelle elle avait dit avoir gravé le mot mépris, et elle pouvait alors assister en personne désintéressée à ce qu'elle nommait le vaudeville des prétendus, quoiqu'il y jouât le rôle de la jeune première. Elle se proposait surtout d'humilier constamment M. de la Brière. « Modeste est sauvée !» dit en souriant Mme Mignon à son mari. « Elle veut se venger du faux Canalis en essayant d'aimer le vrai. » Tel fut en effet le plan de Modeste. C'était si vulgaire que sa mère, à qui elle confia ses chagrins, lui conseilla de le marquer à M. de la Brière que de la plus accablante bonté. « Voilà deux garçons, » dit Madame Latournelle le samedi soir, « qui ne se doutent pas du nombre d'espions qu'ils auront à leur trousse, car nous serons 8 à les dévisager. »« Que dis-tu d'eux, bon ami ?» s'écria le petit Latournelle. « Ils seront 3, Goguenheim n'est pas encore venu, je puis parler. » Modeste avait levé la tête et tout le monde, imitant Modeste, regardait le petit notaire. Mais un troisième amoureux, et il l'est, se met sur les rangs. Ah bah, dit Charles Mignon. Oh, mais il ne s'agit de rien moins, reprit fastueusement notaire, que de sa seigneurie, monsieur le duc d'Hérouville, marquis de Saint-Sever, duc de Livron, comte de Bayeux, vicomte de Signy, grand écuyer de France et père, chevalier de l'ordre de l'éperon et de la toison d'or, grand d'Espagne, fils du dernier gouverneur de Normandie. Il a vu Mademoiselle Modeste pendant son séjour chez les Vilquin. Il regrettait alors, dit son notaire arrivé de Bayeux hier, qu'elle ne fût pas assez riche pour lui, dont le père n'a retrouvé que son château d'Hérouville orné d'une sœur à son retour en France. Le jeune duc a 33 ans, et je suis chargé positivement de vous faire des ouvertures, monsieur le comte, dit le notaire en se tournant respectueusement vers le colonel.
Oh, demandez à Modeste, répondit le père, si elle veut avoir un oiseau de plus dans sa volière, car en ce qui me concerne, je consens à ce que monsieur le grand écuyer lui rende des soins.
Malgré le soin que Charles Mignon mettait à ne voir personne, à rester au chalet, à ne jamais sortir sans Modeste, Gobenheim, qu'il eût été difficile de ne pas recevoir au Châtelet, avait parlé de la fortune de Dumay, car Dumay, ce second père de Modeste, avait dit à Gobenheim en le quittant « Ogerai cela tendant de mon colonel et de toute ma fortune, hormis ce qu'en gardera ma femme, sera pour les enfants de ma petite Modeste. » Chacun au Havre avait donc répété cette question si simple que déjà la tournelle s'était faite. « Ne faut-il pas que M. Charles Mignon ait une fortune colossale pour que de la part de Dumay soit de 600 000 francs et pour que Dumay se fasse un intendant ?»« M. Mignon est arrivé sur un vaisseau à lui, chargé d'indigo, disait-on à la bourse. Ce chargement vaut déjà plus, sans compter le navire, que ce qu'il se donne de fortune. » Le colonel ne voulut pas envoyer ses domestiques, choisis avec tant de soin pendant ses voyages, et il fut obligé de louer pour 6 mois une maison au bas d'Ingouville, car il avait un valet de chambre, un cuisinier et un cocher, nègres tous deux, une mulâtresse et 2 mulâtres sur la fidélité desquels il pouvait compter. Le cocher cherchait des chevaux de selle pour mademoiselle, pour son maître et des chevaux pour la calèche dans laquelle le colonel et le lieutenant étaient revenus. Cette voiture, achetée à Paris, était à la dernière mode et portait les armes de la Bastille, surmontée d'une couronne comtale. Ces choses minimes aux yeux d'un homme qui depuis 4 ans vivait au milieu du luxe effréné des Indes, des marchands Hong et des Anglais de Canton, furent commentés par les négociants du Havre, par les gens de Graville et d'Ingouville. En 5 jours, ce fut une rumeur éclatante qui fit à Normandie l'effet d'une traînée de poudre quand elle prend feu. « Monsieur de Mignon est revenu de la Chine avec des millions, disait-on à Rouen, et il paraît qu'il est devenu comte en voyage. Mais il était comte de la Bastille avant la Révolution, répondait un interlocuteur. Ainsi, on appelle monsieur le comte un libéral qui s'est nommé pendant 25 ans Charles Mignon, mais où allons-nous ? Modeste passa donc, malgré le silence de ses parents et de ses amis, pour être la plus riche héritière de la Normandie, et tous les yeux aperçurent alors ses mérites. La tante et la sœur de monsieur le duc d'Hérouville confirmèrent en plein salon à Bayeux le droit de monsieur Charles Mignon au titre et aux armes de comte, dit au cardinal Mignon, dont, par reconnaissance, les gants et le chapeau furent pris pour sommier et pour support. Elles avaient entrevu de chez les Vilquin, mademoiselle de la Bastille, et leur sollicitude pour le chef de leur maison appauvrie fut aussitôt réveillée. « Si mademoiselle de la Bastille est aussi riche qu'elle est belle, dit la tante du jeune duc, ce serait le plus beau parti de la province, et elle est noble au moins, celle-là. » Et ce dernier mot fut dit contre les Vilquin avec lesquels on n'avait pas pu s'entendre, après avoir eu l'humiliation d'aller chez eux. Tels sont les petits événements qui devaient introduire un personnage de plus dans cette scène domestique, contrairement aux lois d'Aristote et d'Horace, mais le portrait et la biographie de ce personnage, si tardivement venu, n'y causeront pas de longueur, vu son exiguïté. Monsieur le duc ne tiendra pas plus de place ici qu'il n'en tiendra dans l'histoire. Sa seigneurie, monsieur le duc d'Hérouville, un fruit de l'automne matrimonial du dernier gouverneur de Normandie, est né pendant l'émigration en 1796 à Vienne. Revenu avec le roi en 1814, le vieux maréchal, père du duc actuel, mourut en 1819 sans avoir pu marier son fils, quoiqu'il fût duc de Nivron. Il ne lui laissa que l'immense château d'Hérouville, le parc, quelques dépendances, et une ferme assez péniblement rachetée, en tout 15 000 livres francs de rente. Louis XVIII donna la charge de grand écuyer au fils, qui, sous Charles X, eut les 12 000 francs de pension accordés au père de France pauvre. Qu'étaient les appointements du grand écuyer et 27 000 francs de rente pour cette famille? À Paris, le jeune duc avait, il est vrai, les voitures du roi, son hôtel rue Saint-Thomas du Louvre, à la grande écurie. Mais ces appointements défrayaient son hiver, et les 27 000 francs défrayaient l'été dans la Normandie. Si ce grand seigneur était encore garçon, il y avait moins de sa faute que de celle de sa tante, qui ne connaissait pas les femmes de La Fontaine. Mademoiselle d'Hérouville eut des prétentions énormes, en désaccord avec l'esprit du siècle, car les grands noms sans argent ne pouvaient guère trouver de riches héritières dans la haute noblesse française, déjà bien embarrassée d'enrichir ses fils ruinés par le partage égal des biens. Pour marier avantageusement le jeune duc d'Hérouville, il aurait fallu caresser les grandes maisons de banque et la hautaine fille des d'Hérouville, les froissa toutes par des mots sanglants. Pendant les premières années de la Restauration, de 1817 à 1825, tout en cherchant des millions, Mademoiselle d'Hérouville refusa Mademoiselle Mongenod, fille du banquier, de qui se contenta Monsieur de Fontaine. Enfin, après de belles occasions manquées par sa faute, elle trouvait en ce moment la fortune des Nucingen trop turpidement ramassée pour se prêter à l'ambition de Madame de Nucingen, qui voulait faire de sa fille une duchesse. Le roi, dans le désir de rendre aux d'Hérouville leur splendeur, avait presque ménagé ce mariage, et il taxa publiquement Mademoiselle d'Hérouville de folie. La tante rendit ainsi son neveu ridicule, et le duc prêtait au ridicule. En effet, quand les grandes choses humaines s'en vont, elles laissent des miettes, des frustaux, dirait Rabelais, et la noblesse française nous montre en ce siècle beaucoup trop de reste. Certes, dans cette longue histoire des mœurs, ni le clergé ni la noblesse n'ont à se plaindre. Ces deux grandes et magnifiques nécessités sociales y sont bien représentées, mais ne serait-ce pas renoncer au beau titre d'historien que de n'être pas impartial, que de ne pas montrer ici la dégénérescence de la race, comme vous trouvez ailleurs la figure de l'émigré dans le comte de Mortsauf. Voyez le Lys dans la vallée, et toutes les noblesses de la noblesse dans le marquis d'Espard. Voyez l'interdiction. Comment la race des forts et des vaillants, comment la maison de ces fiers d'Hérouville, qui donnèrent le fameux maréchal à la royauté, des cardinaux à l'Église, des capitaines aux Valois, des preux à Louis XIV, aboutissait-elle à un être frêle et plus petit que Bouchard? C'est une question qu'on peut se faire dans plus d'un salon de Paris en entendant annoncer plus d'un grand nom de France et voyant entrer un homme petit, fluet, mince, qui semble n'avoir que le souffle, ou de hâtifs vieillards ou quelques créations bizarres chez qui l'observateur recherche à grand-peine un trait où l'imagination puisse retrouver les signes d'une ancienne grandeur. Les dissipations du règne de Louis XV, les orgies de ce temps égoïste et funeste, ont produit la génération étiolée, chez laquelle les manières seules survivent aux grandes qualités évanouies. Les formes, voilà le seul héritage que conservent les nobles. Aussi, à part quelques exceptions, peut-on expliquer l'abandon dans lequel Louis XVI a péri par le pauvre reliquat du règne de Madame de Pompadour. Blond, pâle et mince, le grand écuyer, donc jeune homme aux yeux bleus, ne manquait pas d'une certaine dignité dans la pensée. Mais sa petite taille et les fautes de sa tante, qui l'avaient conduit à courtiser vainement les Vilquins, lui donnaient une excessive timidité. Déjà la famille d'Hérouville avait failli périr par le fait d'un avorton. Voyez, l'enfant maudit, étude philosophique. Le grand maréchal, car on l'appelait ainsi dans la famille, celui que Louis XIII avait fait duc, s'était mariée à 82 ans et naturellement la famille avait continué. Néanmoins, le jeune duc aimait les femmes, mais il les mettait trop haut, il les respectait trop, il les adorait, il n'était à son aise qu'avec celles qu'on ne respecte pas. Ce caractère l'avait conduit à mener une vie en partie double. Il prenait sa revanche avec les femmes faciles des adorations auxquelles il se livrait dans les salons, ou, si vous voulez, dans les boudoirs du faubourg Saint-Germain. Ses mœurs et sa petite taille, sa figure souffrante, ses yeux bleus tournés à l'extase, avaient ajouté, très injustement d'ailleurs, au ridicule versé sur sa personne, car il était plein de délicatesse et d'esprit, mais son esprit, sans pétillement, ne se manifestait que quand il se sentait à l'aise. Aussi Fanny Beaupré, l'actrice qui passait pour être à prix d'or, sa meilleure amie, disait-elle de lui « C'est un bon vin, mais si bien bouché qu'on y casse ses tire-bouchons. » La belle duchesse de Maufrigneuse, que le grand écuyer ne pouvait qu'adorer, l'accabla par un mot qui malheureusement se répéta comme toutes les jolies médisances. « Il me fait l'effet, disait-elle, d'un bijou finement travaillé qu'on montre beaucoup plus qu'on ne s'en sert et qui reste dans du coton. » Il n'y eut pas jusqu'au nom de la charge de grand écuyer qui le fit rire. Par le contraste, le bon Charles X, quoique le duc d'Hérouville, fut un excellent cavalier. Les hommes sont comme les livres, ils sont quelquefois appréciés trop tard.